Radio Grenouille.
La rédaction vous invite pendant 10 minutes.
Géographie de la pensée critique. Pensée, l'émancipation.
10 minutes avec.
10 minutes avec le sociologue Laurent Mucchielli. Laurent Mucchielli qui intervient aujourd'hui dans le cadre d'une conférence débat intitulée Marseille, la mafia, fantasme ou réalité. Laurent Mucchielli est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-on vraiment parler de fantasme ou de réalité lorsqu'on parle de la mafia? Et surtout, selon vous, qu'est-ce que la mafia?
Alors, mafia, c'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers, c'est ce que je vais raconter ce soir. Il est souvent utilisé quand on parle de la criminalité à Marseille, a fortiori dans les périodes où Marseille est extrêmement exposée dans le débat politico-médiatique national, ce qui est le cas beaucoup ces dernières années, en particulier au travers de la comptabilité des règlements de compte criminels. Donc du coup, c'est un mot facile qu'on emploie et qu'on entend dans la bouche de journalistes, d'hommes politiques, qui expliquent tout et n'importe quoi sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Alors moi, je pense qu'il y a... on ne peut pas parler de mafia dans le cas de Marseille, et qu'on a tort de confondre le grand banditisme avec la mafia, qui sont des choses différentes. La mafia, telle qu'on peut l'analyser, en particulier dans le cas historique typique, qui est le cas italien, le cas sud-italien, que ce soit le cas sicilien, le cas napolitain, etc. La mafia, ça suppose un ancrage historique très ancien qui profite des failles de l'État pour installer un système à la fois de pouvoir politique et de pouvoir économique extrêmement important, qui développe une partie dans le secteur légal et une partie dans le secteur illégal, qui a développé pour protéger son système et son organisation un énorme réseau de soutien et de corruption très généralisé, et qui par ailleurs rencontre le soutien d'une partie de la population de base. Voilà. Donc ces critères-là fondamentaux ne fonctionnent pas en France nulle part, ni à Marseille, ni en Corse. Donc pour ces raisons-là, non, on ne doit pas parler de mafia, on doit parler par contre de criminalité organisée, oui, ça c'est sûr, de grand banditisme, ça c'est certain aussi, mais pas de mafia. Alors les mafias profitent, par définition, depuis toujours, profite des failles de l'État, des failles de l'organisation, des failles à tout niveau. C'est des failles dans le contrôle des activités économiques, c'est des failles dans le système policier judiciaire, bien sûr, c'est des failles dans le contrôle de la vie politique. C'est un petit peu généralisé. Alors, bien sûr, on trouve des formes de criminalité organisée qui s'infiltrent là-dedans, en France comme dans tous les pays du monde en réalité. Mais encore une fois, il y a des différences tellement importantes qui ne sont pas juste des différences de degré, il y a aussi des différences de nature. Bon. Il n'y a pas à Marseille, il n'existe pas une organisation qui compterait plusieurs centaines, ou comme c'est le cas des mafias italiennes, plusieurs milliers, ne serait-ce que pour une organisation. Un exemple typique de grande mafia historique, c'est la Cosa Nostra en Sicile, qui compte plusieurs milliers de personnes, qui se fondent sur une histoire très particulière, d'un conflit extrêmement important entre l'État central, l'État italien qui veut unifier, puis une résistance locale, qui est articulée sur les grandes familles de grands propriétaires locaux, sur les révoltes aussi paysannes face à la misère, et qui va développer un très large système économique, politique, avec des problèmes de corruption, mais qui concernent des centaines d'élus. Enfin, vous voyez, on parle d'un niveau... Alors en France, bien sûr, il y a des phénomènes de corruption, on les connaît bien, à Marseille par exemple. Il y a bien sûr des entreprises qui font de la criminalité, qui ont une façade légale, une façade illégale, mais ça reste des petits réseaux. Ce ne sont pas des organisations tellement importantes et tellement puissantes qu'elles deviennent presque concurrentes de l'État.
Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, propre au pouvoir de générer autour de lui corruption, manipulation? Est-ce qu'il existe un pouvoir pur?
Je ne sais pas si on peut poser la question comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la référence de base, c'est Nicolas Machiavel. Le but du prince, c'est de conquérir le pouvoir, puis une fois qu'il l'a, de s'y maintenir. Bon. Et ce, par à peu près tous les moyens. Alors évidemment, plus on est dans un état où il y a peu de contrôle, etc., plus ces moyens sont... plus ses moyens sont vastes. Alors, c'est certain que ce qu'on appelle des démocraties avancées, c'est avancé pour 2014, mais peut-être que dans un millénaire, les gens nous trouveront des barbares incroyables et nous trouveront moyenâgeux et rigoleront de ce que nous appelons la démocratie représentative aujourd'hui, qui n'empêche évidemment pas le crime ou la corruption, mais qui néanmoins a quand même des moyens de le contrôler qui ne sont pas ceux des siècles passés. On se figure aujourd'hui, mais parce qu'on vit dans un débat médiatico-politique où l'horizon d'analyse c'est 24 heures ou 48 heures, donc on se figure toujours que mon Dieu, il se passe un truc incroyable, c'est horrible, et puis en plus que le bon vieux refrain des cadentistes, avant c'était mieux. Mais c'est pas vrai du tout. La réalité, dès qu'on ouvre un livre d'histoire, c'est qu'avant c'était pire. C'était bien pire qu'avant, voilà. Et que néanmoins, on est quand même un petit peu plus organisé aujourd'hui, etc. Bon, néanmoins, il reste des failles tout à fait évidentes, dont encore une fois, profite le grand banditisme, et qui est particulièrement néanmoins prégnant dans la région, qui est un banditisme à l'origine corso-marseillais, hein, ou même corso-italo-marseillais, parce que Marseille est un port, parce que c'est une ville d'immigration, parce qu'il y a une diaspora italienne très importante, parce qu'il y a une diaspora corse, parce qu'il y a un niveau de pauvreté, d'inégalité très important. Et puis dans les années récentes, parce que le trafic de cannabis est devenu très lucratif, que le principal producteur il est juste de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la vallée du Rif au Maroc, et que donc c'est direct par bateau ou par la route en passant par l'Espagne. Et que donc on a là une proximité très très forte et une criminalité, mais qui, encore une fois, qui n'est pas une mafia.
Et vous êtes par ailleurs spécialiste de la délinquance, et vous avez beaucoup écrit sur la question, en dénonçant notamment donc, la mise en scène médiatique autour de l'insécurité. Alors pourquoi est-ce que la délinquance, tout d'un coup, autant celle des cols blancs que le grand banditisme, que les jeunes de cité, pour prendre les clichés, quoi, devient un marqueur politique si important? Pourquoi cette évolution, alors que statistiquement, pourtant, il n'y a pas eu une telle flambée de violence?
Alors, il n'y a pas besoin, effectivement, qu'il y ait une flambée. Hein. Le décompte là, des règlements de compte criminels, c'est toujours pareil. Si on regarde le mois d'avant, ça n'a aucun sens, même l'année d'avant. Moi, j'ai publié dans un petit livre récent, tout simplement, une courbe sur 40 ans, où on voit très clairement que aujourd'hui, il y a deux fois et demi moins d'homicides que dans les années 80. De règlement de compte criminel. Tout ça, mais c'est juste qu'on vit encore une fois dans une espèce de débat complètement amnésique, enfermé dans l'hyper-présent.
Mais pourquoi ?
Ça c'est toute l'évolution du monde politique, du monde des médias. Hein. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'information ? C'est les chaînes d'information continue qui vous présentent l'espèce de spectacle en direct de quelque chose en train de se faire, même si on n'a rien à dire dessus. Parce qu'on estime que l'important, c'est juste de regarder ce qui est en train de se faire, même si on ne peut pas encore le comprendre, qu'on n'a aucun recul. Bon, c'est tout à fait catastrophique, hein, bien sûr, d'un point de vue intellectuel. Donc ça produit cette espèce d'amnésie. Bon, ça c'est du côté média. Et puis du côté politique, c'est parce que les politiciens, en particulier ceux qui font de l'insécurité un argument électoral permanent, ont besoin de trouver des exemples, des figures, des terrains pour développer ce discours. Alors parfois c'est des types de population, genre les jeunes, les immigrés, les Roms, etc. Et parfois c'est des territoires. Donc quand c'est pas les banlieues, y a dans le répertoire qu'ils peuvent utiliser, il y a aussi Marseille. Donc ça devient, on va se focaliser dessus pour pouvoir dérouler tout son discours sécuritaire classique.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un penchant dans notre société à vouloir écarter, voire supprimer, ou au moins catégoriser tout ce qu'elle considère comme déviant ? C'est-à-dire que de plus en plus, on va médicaliser la question de la délinquance, on observe aussi une certaine judiciarisation de la société, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi un mouvement de fond qui est de ne plus accepter qu'il y ait des éléments perturbateurs de notre société ?
Ça mélange deux problèmes. Donc une fois qu'on a mis de côté tout ce qui est l'instrumentalisation politique et médiatique, après ça il reste deux questions. La première, c'est qu'il y a toute une série de phénomènes de délinquance dont certains sont objectivement des nuisances pour la plupart d'entre nous. Donc c'est parfaitement normal qu'il y ait, comme dans tous les pays, à toutes les époques, une politique de lutte contre, etc. Qu'il y ait des policiers, qu'il y ait des juges, etc. Tout ça est parfaitement normal. Après, il y a une troisième chose qui est encore différente, c'est que nous vivons par ailleurs une société de plus en plus anonyme, individualiste, qui a un seuil de tolérance qui s'est complètement écroulé, qui commence à crier à la violence dès qu'elle entend un gros mot, hein, parce que c'est ça, hein, quand on fait des enquêtes, nous, sur la violence, le sentiment d'insécurité, on s'aperçoit que il y a, par exemple, typiquement, des personnes âgées, seules, qui voient trois jeunes chahutés, ils appellent ça violence. Bon. Donc on vit comme ça, effectivement, dans une société très anonyme, très individualiste, pas au sens moral, mais au sens du mode de vie, hein, dans du périurbain qui se développe partout, etc., où les gens ne se connaissent pas. Et donc il y a toute une série, en fait, de petites turbulences, on va dire, de la vie quotidienne, qui sont en réalité pas très graves, mais que dans les modes de vie plus communautaires, au sens de la communauté des gens qui vivent ensemble, des décennies passées, on savait encore gérer, encore une fois, par l'interconnaissance, et qu'aujourd'hui, on peut plus gérer, tout simplement parce que les gens sont tout seuls. Et lorsque vous avez, on se met tout à fait à la place, pour reprendre mon petit exemple, la personne âgée, qui a 3 ou 4 jeunes qui chahutent, elle se sent totalement impuissante, évidemment, par rapport à ça, et donc le réflexe, ça va être de faire le 17, d'appeler police secours, en fait. Bon. Et donc, on va se retrouver, effectivement, à judiciariser, comme vous disiez très justement, une situation qui est en fait une situation complètement banale de la vie sociale, qui est juste une petite turbulence, etc., et qu'on ne sait plus gérer autrement que comme ça. Et ça, malheureusement, c'est en dehors de quelques endroits plus criminogènes, on va dire, que d'autres, c'est en fait la situation dominante de la plupart des villes et des villages de France et de Navarre. Et c'est ce sur quoi, malheureusement, il n'y a quasiment pas de réflexion aujourd'hui de la part des pouvoirs publics.
Merci, Laurent Mucchielli. Merci.
Radio Grenouille. 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec...